Luc 13, verset 10. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressait et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes, chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas ? Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat ? Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui. Tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Lorsqu'une personne lit les évangiles pour la première fois ou pour la énième fois, elle ne peut pas ignorer l'existence de miracles dans la vie de Jésus. On peut diviser les miracles de Jésus en 3 catégories. Dans ces miracles, Jésus se montre plus fort ou le plus fort. Il est plus fort que la nature, il est plus fort que la maladie et la mort, et il est plus fort que le diable. Pensez à des exemples où Jésus se montre plus fort que la nature. Je pense à la tempête apaisée, Jésus qui marche sur les eaux, la pièce d'argent trouvée dans la bouche d'un poisson, l'eau changée en vin, les 2 multiplications des pains, la pêche miraculeuse, ou les pêches miraculeuses, parmi d'autres. Jésus se montre plus fort que la maladie et la mort à plusieurs occasions, la guérison d'un serviteur d'un centenier, la guérison de la belle-mère de Pierre l'apôtre. Plusieurs lépreux sont guéris. Un paralytique qui est amené par 4 amis au pied de Jésus. Jésus guérit cet homme et pardonne ses péchés. Un homme malade depuis 38 ans à Bethesda. Et Jésus le guérit. Et un garçon épileptique, des aveugles, des sourds, des muets. Tant d'exemples de personnes guéries par Jésus. Jésus a même ressuscité au moins 3 personnes de la mort. Une fille, un garçon et un adulte, un homme qui s'appelait Lazare. Et Jésus se montre aussi plus fort que le diable. Des démoniaques ont été délivrés du diable. Un démoniaque qui vivait dans un cimetière, un drôle d'endroit pour vivre. Il habitait dans un cimetière, cet homme-là. Et Jésus l'a délivré. Et d'autres démoniaques ont été délivrés par la puissance de Jésus. Jésus s'est montré plus fort que la nature, plus fort que la maladie et la mort, et plus fort que le diable. Ceci dit, on peut diviser aussi les miracles de Jésus en 3 catégories en fonction des mots qui sont employés dans le texte. Certains miracles sont décrits comme des œuvres puissantes, où Jésus manifeste sa toute-puissance. D'autres miracles sont décrits comme des prodiges qui suscitent l'étonnement. On vient de lire, les gens étaient étonnés de voir ce que Jésus a fait. Et une 3e catégorie, ce sont des signes ou un panneau indicateur. Un miracle a lieu et ce miracle est un signe pour que les gens ne regardent pas le miracle, mais que les gens regardent l'auteur du miracle. Mais qui a fait ça? Et l'idée, c'est que les gens regardent plus loin que Jésus pour voir la puissance et l'amour et la bonté de Dieu. Alors, si vous cherchez une définition du terme miracle, j'en ai une, voire deux, à vous proposer. Il s'agit d'une intervention surnaturelle et divine qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. J'aurais dû mettre ça sur l'écran. Je vais le redire. Il s'agit d'une intervention surnaturelle et divine qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. C'est la première définition. Ma deuxième définition est la suivante. Un miracle, c'est lorsque Dieu fait quelque chose que Dieu seul sait faire et peut faire. C'est plus simple, plus court. Lorsque Dieu fait quelque chose que lui seul sait faire et peut faire. Dans le texte que nous venons de lire, nous avons donc un exemple d'un miracle où Jésus se montre plus fort que la maladie et plus fort que le diable. Cette pauvre dame était malade et c'est marqué à cause du diable. Alors bien sûr, toutes les maladies que nous avons, que vous pouvez voir à droite et à gauche, n'ont pas leur origine strictement liée au diable, mais cette femme, pour cette femme-ci, c'était le cas. Elle était dominée par le diable, sous l'emprise du diable. Le texte nous dit que Satan la tenait en son pouvoir depuis 18 ans. Jésus voit cette femme, Jésus guérit cette femme qui était voûtée, courbée, incapable, dit le texte, de se redresser. Nous avons une voisine, d'ailleurs deux voisines, une à 93 ans et l'autre, peut-être pas loin derrière, et toutes les deux marchent comme ça, carrément pliées en deux. Alors, elles marchent comme ça, non pas parce que c'est le diable, je pense, c'est parce que toutes les deux des agricultrices, elles ont passé leur vie à semer, et à arracher et à récolter. Et le résultat, c'est qu'elles sont littéralement pliées en deux. Non pas pour rire, hein, mais pliées en deux littéralement. Et c'est la maladie qui fait ça. Par contre, cette femme, elle était malade, 18 ans. Calculez, sans votre téléphone, 216 mois, 936 semaines, 6570 jours. Oh là là, ça fait combien d'heures? Quand on a mal à la tête pendant une journée, on dirait que c'est une éternité. Bien sûr, on exagère, mais cette femme-là, 18 ans, malade. Deux mots qui résument cette situation, domination et libération. Cette pauvre femme dans la synagogue, sous l'emprise d'un esprit mauvais, dominée par un démon, maîtrisée par un émissaire du diable. Vous savez, il y a des personnes de nos jours, en 2022, qui peuvent être dominées, maîtrisées par un démon, par des démons, par le diable. Cela peut se manifester de plusieurs façons différentes. Qu'est-ce que je dis? Eh bien, comment est-ce qu'on peut être dominé ou maîtrisé par le diable en 2022? Eh bien, il y a trois mots qui vont s'afficher sur l'écran. Et les personnes qui pratiquent ces choses qui vont s'afficher peuvent être dominées, maîtrisées par Satan. Le spiritisme. Qu'est-ce que le spiritisme? Eh bien, c'est ceux qui croient ou qui essayent d'entrer en contact avec l'esprit d'un mort, soit en passant par un médium, un spirit, ou une médium ou une spirit. Et une autre façon de faire ça, qui est très courante parmi les lyciens, c'est le Ouija. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est le Ouija, mais en principe, c'est un jeu qui se vend au supermarché, mais un jeu qui peut être très, très dangereux. Ceux qui se donnent au spiritisme peuvent facilement se trouver dominés par le diable sans qu'ils le sachent. Divination, deuxième pratique Alors, qu'est-ce que c'est la divination? C'est le fait de consulter une voyante, un voyant, pour connaître son avenir. C'est le fait de croire à son horoscope. Et il y a maintenant, bien sûr, des horoscopes chinois et japonais qui sont traduits en français pour ceux qui ne se contentent pas de l'horoscope français. Ça, c'est ceux qui croient à l'astrologie, à la numérologie, aux boules de cristal, au fond de tasse. Tout ça existe. Et j'allais dire, c'est monnaie courante. Ceux qui pratiquent la cartomancie, ceux qui pratiquent la chiromancie, se faire lire l'avenir grâce aux lignes de la main. Spiritisme, divination et magie. Magie blanche, magie noire. La sorcellerie. Invoquer le diable pour faire du mal sur quelqu'un. Jeter des sorts. Invoquer le diable pour faire du bien, entre guillemets. Consulter des guérisseurs, des rebouteux, des magnétiseurs, avec pendule, avec les mains chaudes, qui ne vous touchent même pas, mais qui prétendent guérir. Tout ça peut influencer en mal un être humain. Et toutes ces pratiques, bien sûr, sont interdites par Dieu dans la parole de Dieu. Il y a de nombreux versets qui interdisent ces pratiques. Parce que Dieu sait que ceux qui font ces choses-là lui désobéissent, s'éloignent de Dieu et peuvent connaître des conséquences désastreuses ou dramatiques. Les conséquences de plusieurs ordres, d'ordre physique, mental, social, émotionnel ou spirituel. Je m'explique. Certaines pratiques peuvent conduire des gens à la dépression, à des angoisses inexpliquées, à des délires mystiques. On entend des voix, à des intentions suicidaires, à des tentatives de suicide, à des suicides. Des objets qui se déplacent chez soi, un sentiment de persécution, de parano, l'immoralité, des blasphèmes incontrôlables, des maladies mystérieuses, la scarification, toutes sortes de troubles psychiques. Et la liste, on peut continuer. Bien sûr, tous ceux qui souffrent de ces choses-là ne sont pas forcément des gens qui pratiquent ces choses interdites, mais ces choses interdites peuvent entraîner des conséquences comme celles que je viens de nommer. Et c'est grave. Et nous avons eu affaire depuis 40 ans dans le ministère avec des gens troublés, dominés par le diable, par un démon, à cause des pratiques interdites. Cette femme était malade à cause d'un démon. On ne connaît pas l'origine et on n'a pas besoin de connaître l'origine de sa maladie. Mais on sait qu'elle était dominée, mais on sait qu'elle a été libérée. Libérée grâce à Jésus. Je vais vous citer quelqu'un que vous connaissez tous. Et je veux voir qui est la première personne à me dire le nom de ce monsieur. Je vous donne des indices. Il s'agit d'un Français. Il s'agit de quelqu'un que même les enfants connaissent par nom. Il s'agit de quelqu'un qui est mort depuis quelques années. Il a dit ceci. Et si vous connaissez la citation, vous allez pouvoir la finir avec moi. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Vous m'avez compris. Oh, pardon. Je ne vais pas citer le général toutes les cinq minutes. Cette femme brisée, cette femme pliée, cette femme maîtrisée, mais cette femme libérée, grâce à Jésus. Immédiatement, elle se redresse. Immédiatement, elle commence à louer Dieu, à remercier Dieu pour ce que Dieu avait permis qu'elle connaisse. Tout le monde est content. Enfin, peut-être pas tout le monde. Hein? Le chef de la synagogue était en colère. Et au lieu de respecter Jésus, il n'a pas osé. Il respecte la foule. Au lieu de dire à Jésus, pourquoi tu fais ça un jour de sabbat? Il dit à la foule, pourquoi est-ce que vous venez ici aujourd'hui pour être guéri? Il faut venir un autre jour. Le sabbat, on n'a pas le droit d'être guéri. Quelle bêtise. Et Jésus, comme toujours, il sait répondre. Vous n'êtes que des hypocrites. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois que Jésus dit aux chefs religieux, vous n'êtes que des hypocrites. Jésus redresse cette femme. Elle était tordue. Et Jésus l'a redressée. Jésus peut redresser quelqu'un qui est tordu, quelqu'un qui est plié en deux, quelqu'un qui a des conséquences soit d'une maladie ou d'un contact avec l'occultisme, le spiritisme, la divination. Dieu seul peut détordre ce qui est tordu. Dans Jérémie 17, 9, il est écrit, le cœur humain est tortueux. Tordu. De façon naturelle, on est tous tordus. Alors, j'ai cherché des synonymes pour ce mot tortueux. Sinueux, serpentin, roublard, sournois, malicieux, fourbe. Il y en a d'autres. Nous avons tous des cœurs comme ça. Et vous regardez rien qu'aux infos et les journaux et les sites internet, on voit que des histoires avec des gens tordus, sinueux, serpentins, etc. Mais ne jetons pas la pierre, parce que nous sommes tous pécheurs aux yeux de Dieu. Et Dieu seul peut changer un cœur. Dieu seul peut changer un caractère. Dieu seul peut changer un comportement. Si vous voulez changer votre cœur, votre caractère, votre comportement, eh bien, demandez à Dieu de venir vous voir. Et si vous lui demandez de venir vous voir, il viendra vous voir. Mais soyez prêts à ce qu'il change votre cœur, à ce qu'il change votre comportement, à ce qu'il change votre caractère. Vous savez, il y a cette expression qui est fausse d'ailleurs, qui n'est pas juste. Il ou elle a un caractère de cochon. Vous savez, moi, j'ai connu un éleveur de cochons il y a quelque temps, et les cochons sont très gentils. Il m'a invité à aller chez lui pour voir ses cochons. Bon, ce n'est pas très propre. Tout le monde n'aime pas la viande de cochon. Mais les cochons ont un bon caractère. Et vous savez, maintenant, grâce à la chirurgie, on peut avoir un cœur de cochon, littéralement transporté dans le cœur. Alors, est-ce qu'un cœur de cochon donne un caractère de cochon? Dans le sens positif. J'en sais rien. Et tout ça veut dire que Jésus seul peut changer notre cœur, notre caractère et notre comportement. Alors, cet incident dans la vie de Jésus est un exemple frappant et merveilleux de sa compassion. Ce matin, lorsque Antoine a lu le psaume 145, une phrase est sortie de la page. L'Éternel est lent à la colère, plein de bonté et plein de compassion. Le psaume 145, je pense peut-être le verset 18. Jésus fait preuve de compassion ici. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il reflète la compassion de son Père. Dans l'Ancien Testament, que ce soit dans l'Exode, dans les Lamentations, dans Jérémie, dans Ézéchiel, partout dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est un Dieu compatissant. Et dans le Nouveau Testament, on voit même, littéralement, il est écrit, Jésus fut ému de compassion. Jésus fut rempli de compassion. Luc 7, verset 13, quand il voit la veuve dont le fils venait de mourir, Jésus va à l'enterrement et il ressuscite le fils. Il est écrit, il était rempli de compassion. Quand Jésus regarde la foule, les foules, perdues, désemparées, complètement paumées, il est écrit dans Matthieu 9, 36, il fut rempli de compassion en voyant les gens qui étaient complètement désemparés, perdus. Si bizarre que cela puisse paraître, Jésus est rempli de compassion en nous regardant ce matin. Il nous connaît. Il sait tout sur chacun d'entre nous. Ce qu'on a fait hier, ce qu'on prévoit cet après-midi, ce qu'on a mangé ce matin, ce qu'on va faire demain matin. Il sait tout. Et il est rempli de compassion. Il est compatissant envers Léonie et Valentin et leurs frères et leurs parents. Il est compatissant envers chaque personne qui se dit chrétienne. Le psaume 103 nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui l'aiment. » L'Éternel est compatissant envers chaque chrétien. Il est aussi compatissant envers chaque personne qui n'est peut-être pas forcément chrétienne ou qui ne sait pas trop si elle est chrétienne ou pas. Le Seigneur est compatissant envers chaque être humain, quel que soit notre passé, quelles que soient nos origines, quels que soient les péchés ou les crimes et les délits qu'on aurait commis. Jésus nous aime. Alors ça me donne envie de vous dire que si vous vous sentez un peu perdu ce matin, un peu paumé, un peu désemparé, eh bien, le Seigneur Jésus vous tend sa main. C'est formidable. Il nous tend sa main, quelles que soient nos circonstances. Et il est toujours prêt à venir nous secourir. Alors, pour conclure, je vous encourage et je vous demande de retenir deux choses pour cette semaine qui commence. Dites-vous bien, premièrement, que toute pratique occulte est dangereuse, interdite et peut entraîner des séquelles graves. Là, il n'y a pas photo. Deuxièmement, dites-vous bien que vous êtes l'objet ou un bénéficiaire de la compassion de Jésus. Jésus s'intéresse à vous, à nous tous. Il désire nous porter. Il désire nous secourir. Il désire nous fortifier. Il désire nous délivrer. Mais si vous en avez besoin, il est prêt à vous pardonner, à vous libérer, à vous sauver. Mais c'est à vous de lui demander. Remerciez Jésus tous les jours cette semaine, ou tous les jours jusqu'à la fin de votre vie, qu'il est compatissant. Prions. Père Céleste, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils qui est venu pour nous bénir, nous aimer et nous sauver. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à nous dire constamment que tu es un Dieu qui est bon et puissant et compatissant. Tu connais nos épreuves, tu connais nos challenges, tu connais nos difficultés et tu es toujours prêt à nous accompagner, à nous porter, à nous délivrer. Tu sais aussi que nous sommes des pécheurs et toi seul peux nous pardonner. Aide-nous tous, Seigneur, à être sensibles à ce mal en nous et à te demander pardon pour le mal que nous faisons, que nous disons et que nous pensons. Et merci, car tu es plein de compassion. Et comme nous avons lu au psaume 145 ce matin, toi seul peux redresser ce qui est courbé. Seigneur, agis dans notre cœur. Et merci, car tu es lent à la colère et riche en bonté. Nous te confions cette semaine, au nom de Jésus, nous te le prions. Amen.